La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
C'est parti pour Esprit Libre avec Cécile Cornudet, bonjour.
Bonjour.
Éditorialiste aux Échos et Jean-Marie Colombani, bonjour à vous.
Bonjour.
Président de Slate.fr. Alors, on parle de ce qui est un petit peu le feuilleton politique de la semaine. Emmanuel Macron, Bruno Le Maire, y a-t-il une simple bisbille parce qu'il y a un gros temps budgétaire ou est-ce qu'il y a un début de divorce politique? C'est vous qui avez un petit peu lancé, pas le baril de boue, mais qui avez révélé l'information au départ, Cécile Cornudet.
Il y a beaucoup d'agacement entre les deux hommes depuis longtemps. À chaque remaniement gouvernemental, on nous dit Bruno Le Maire sera plus ministre de l'économie, puis finalement il reste. Mais voilà, humainement, ça n'a jamais fonctionné entre les deux. Après, là, ce que supporte pas Emmanuel Macron, c'est que Bruno Le Maire force le trait, selon lui, sur les questions de dette et de déficit et d'économie à trouver pour se dédouaner de son propre bilan, parce que c'est vrai qu'il est là depuis 7 ans au ministère de l'économie. Et qu'au bout d'un moment, c'est quand même lui qui est comptable de ce qui se passe. Et ben, pour donner le sentiment que c'est pas de sa faute, il se pose en lanceur d'alerte. Je dis depuis longtemps que ça va pas. Sous-entendu, c'est parce que Emmanuel Macron ne me suit pas qu'on en est à de tels niveaux de dette. Et c'est ça que supporte pas Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'il se défausse sur lui. En fait, sur ce qu'il estime être au moins un tort partagé. Et en plus, on est en pleine campagne électorale. Remettre si fort les questions de dette et d'économie, ça fait peur aux électeurs, dit le président. Bref, donc c'est cette tactique-là que supporte pas Emmanuel Macron, plus qu'un vrai divorce politique sur la politique économique, parce que sur le reste, c'est plus une question de communication. Pourquoi mettre en avant de recherche d'économie, alors qu'on peut le faire vraiment en coulisses et puis les annoncer, etc. On n'est pas obligé d'en faire le sujet politique central. Donc je pense que voilà, je pense qu'il y a vraiment rien de vraiment neuf sous le soleil, sauf que plus on s'approche de 2027, plus Bruno Le Maire se dit comment je me dépatouille de ce bilan économique et comment je trace ou pas un chemin pour moi-même être candidat.
Et puis comment je prépare ma sortie du gouvernement, parce qu'il faudra bien sortir un jour du gouvernement, c'est une façon de se donner un bon argument, Jean-Marie Colombani. C'est-à-dire que j'ai lancé l'alerte sur les finances publiques, je ne suis pas écouté, donc je pars.
Enfin, c'est vrai qu'il y a en toile de fond, il y a deux approches de la situation actuelle. Il y a une approche d'Emmanuel Macron qui consiste à ne pas dramatiser, alors même que l'ensemble du paysage dramatise, la presse dramatise, les adversaires dramatisent, on nous parle de faillite, ainsi de suite. Donc c'est de dire non, un déficit a un peu dérapé, on va le gérer, on va le gérer avec la croissance, oui beaucoup, mais on va le gérer avec la croissance et en relançant une politique de plein emploi, on va essayer de... et on s'en sortira comme cela. Bruno Le Maire, lui, nous sort le catalogue classique de la droite, c'est-à-dire on va cibler les dépenses publiques. Donc il y a ça en toile de fond, c'est vrai, mais en même temps on est dans un scénario ultra classique. Franchement, le président de la République ne sera pas renouvelable. Donc on approche de la fin, même si la fin est encore loin, puisqu'il est encore dans 3 ans. Mais pour Bruno Le Maire, il s'agit tout simplement de se positionner. Rappelez-vous qu'il sort un livre auparavant. Il sort un petit livre,
La voix française.
Chez Flammarion. D'ailleurs, inélégance vis-à-vis du président de la République.
Sixième livre en 7 ans.
D'une part et d'autre part, le président de la République n'a découvert le livre que quelques jours avant, donc c'est pas très élégant de sa part, mais bon. Et donc, il est dans une démarche qui cible très clairement 2027, l'élection présidentielle. Donc, il se positionne sur un terrain qui est celui favori de la droite et donc il se place là où il pense que la droite pourrait le rejoindre. C'est assez... Voilà. Et s'agissant du comportement, du mode de comportement, il a un exemple dont il peut s'inspirer. C'est Emmanuel Macron face à François Hollande. Donc Emmanuel Macron ne peut pas être surpris que quelqu'un tout d'un coup se mette à jouer un petit peu comme il a joué. Alors, ça
qui,
n'ira pas
qui voulait
loin
perpétuellement
plus,
libérer les énergies. Voilà. Emmanuel Macron, devenu ministre après avoir été conseiller.
Il n'ira pas trop loin non plus, Bruno Le Maire, pour le moment.
Mais c'est ça qui est bizarre, c'est qu'il tire le fil, et puis au dernier moment, il rentre dans le rang,
il regarde le calendrier.
Et Emmanuel Macron le garde. Ça va dans les deux sens. Alors, reste numéro 2 du gouvernement.
Mais parce que c'est quand même un poids lourd, je veux dire, c'est rentrer quand même dans des complications supplémentaires. Mmh. Laissons passer les élections européennes.
Moi, je fais le pari que si elles
toutes ces photos
très
où
mauvaises.
Il se tient droit comme un i à droite du président de la République sur la table du Conseil des ministres, toujours Bruno Le Maire, quasiment comme s'il voulait faire président sur les photos prises.
Et maintenant, alors qu'on a beaucoup parlé des tensions entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron, maintenant ils se sont rapprochés sur le dos de Bruno Le Maire, parce que Gabriel Attal est tout autant énervé par Bruno Le Maire, parce que Gabriel Attal, lui, ce qu'il redoute, c'est une motion de censure de LR. Et, en disant il faut un projet de loi rectificatif, Bruno Le Maire donnait toutes les armes qu'il fallait à LR pour faire déposer cette motion de censure. Donc voilà, c'est vrai que ça fait une tension qui est pas de, qui est pas très très heureuse en pleine campagne électorale.
Bruno Le Maire, si on l'écoute bien, il s'éloigne complètement des fondamentaux du macronisme. Il n'est plus dans les fondamentaux du macronisme, il revient aux fondamentaux de la droite.
Ça, c'est sûr qu'Emmanuel Macron n'a jamais aimé beaucoup les questions de déficit
Alors qu'en effet, le Premier ministre, lui, défendra les fondamentaux. C'est-à-dire, on est là aussi pour transformer, pour libérer, pour réformer. Et donc, on s'en prend à, par exemple, le problème de l'indemnisation des chômeurs, ainsi de suite. On reste dans le schéma général d'Emmanuel Macron, qui considère qu'il y a des endroits de blocage dans la société française et qu'il faut continuer de les attaquer. Qui plus est dans la période actuelle, pour éviter d'ailleurs de parler des déficits, on va parler davantage des réformes qui sont nécessaires.
Alors par exemple, le licenciement des fonctionnaires, le faire plus facilement, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que c'est de l'affichage? Je pourrais rapprocher ça aussi d'ailleurs des annonces dans les Échos de ce matin, Cécile Cornudet, la fin des HLM à vie, là aussi un peu une remise en cause de certains totems de la société.
Alors, sur le licenciement des fonctionnaires, je pense que c'est un peu une erreur de calibrage de la parole de Stanislas Guérini, parce qu'en réalité, il ne veut pas revenir sur l'emploi à vie dans la fonction publique, sur le statut de la fonction publique. C'est juste qu'il existe une règle de licenciement pour faute très grave, qui n'est jamais mise en œuvre, puisque l'année dernière, comme il dit, il y a 13 personnes seulement qui ont été...
Sur 5 millions de fonctionnaires.
Voilà, alors là, c'est sur la fonction publique d'État, je crois que c'est 2,5 millions. Mais en tout cas, c'est effectivement complètement ypsilonesque. Donc, c'est là-dessus qu'il veut un peu peut-être corriger les choses. Mais c'est vrai que c'est parti très, très fort dans le débat parce qu'on s'est dit, oh là là, c'est la fin. Je pense qu'il a mal calibré son affaire. Selon moi, en tout cas, il n'y a pas d'intention de casser le statut de la fonction publique.
Et c'était aussi en même temps l'expression même utilisée par Éric Ciotti. Donc on s'est dit à quoi rime cette espèce de surenchère permanente entre les uns et les autres pour qui sera le plus à droite possible. Il y a aussi cela. Mais ça ne correspond pas au profil de Guérini en plus. Guérini est déjà...
Plutôt discret. Hein,
non seulement ministre, discret, mais il arrive plutôt à des compromis avec les organisations syndicales. Et donc là, commencer une négociation ou une concertation, le mot est toujours...
Mais c'est quoi? C'est contre-feu, signal politique?
Le commencer par ce genre d'apostrophe, c'est vraiment s'assurer de l'échec au départ. Donc c'est vraiment braquer les uns et les autres et c'est justifier, entre guillemets, les mots d'ordre de grève qui partent déjà pour la période des Jeux Olympiques, notamment pour la CGT.
En revanche, sur le fond, de manière générale, tactiquement, il y a une envie de faire diversion par rapport à ce dont on parlait, toute cette question de la dette et des déficits, en disant on revient sur nos fondamentaux macronistes, on réforme et on bouscule un petit peu des codes, d'où les HLM, d'où l'assurance chômage.
Oui, les HLM, on peut dire, c'est faire diversion parce qu'on n'a pas su construire assez de logements et qu'il y a une crise du logement un petit peu sourde qui monte dans le pays.
Il y a un rapport aussi là qui vient de sortir qui montre qu'effectivement, en fait, il n'y a pas de turnover du tout, je crois que c'est 7% de turnover dans les HLM et c'est pour recréer un petit peu d'air et peut-être de mixité sociale si on y arrive.
Est-ce qu'il faut arrêter les HLM à vie, Jean-Marie Colombani?
Sans doute, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de la fluidité est importante et c'est vrai qu'il y a des situations acquises ensuite qui sont très difficiles à remettre en cause. Mais d'une façon générale, on est là depuis plusieurs années dans une crise du logement très profonde, très sévère, qui est un des grands handicaps français, qui est notamment un des grands handicaps quand on veut parler de pouvoir d'achat. Et si on n'agit pas sur le logement et sur le coût du logement, on ne lutte pas pour redonner du pouvoir d'achat. Je veux dire, c'est l'exemple allemand qui est là pour nous montrer que malgré tout, quand la part consacrée par les ouvriers allemands au logement est très nettement inférieure à celle que l'on consacre en France. Donc on a un pouvoir d'achat supplémentaire. Et là, c'est curieux parce qu'on ne voit pas le gouvernement s'attaquer de front
à cette question. Depuis 7 ans, Emmanuel Macron n'aime pas ce sujet.
C'est lancinant. C'est très étonnant.
C'est
lancinant. Oui, et c'est vraiment, c'est vraiment un paysage sinistré dans ce domaine. Et on ne comprend pas pourquoi l'inaction commande dans ce domaine.
Peut-être sera-t-il interrogé lundi matin. Il donne une interview. Ça vient d'être annoncé à la télévision.
Mais sur les JO.
Sur les JO. Bon. En quelques secondes, parce qu'on est déjà en retard, est-ce que vous croyez au fait que les LR vont déposer et aller jusqu'au bout d'une motion de censure?
En tout cas, ils font tout pour nous laisser croire ou nous laisser penser qu'ils vont le faire. Puisque chaque prise de parole supplémentaire nous conduit à penser qu'ils vont le faire. En spéculant sur l'idée que Emmanuel Macron n'oserait pas dissoudre. Oui. Je ne suis pas sûr qu'ils aient raison.
Je pense que oui, on finira peut-être par en avoir une, mais pas tout de suite. À mon avis, plutôt à l'automne que maintenant dans les JO, parce que pour LR, il faut justifier. Et justifier sur une politique justement de rigueur, d'austérité économique, c'est compliqué vis-à-vis de ses électeurs.
Cécile Cornudet et Jean-Marie Colombani, merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous, François.